ce psaume 32 pourrait passer comme une lettre à la poste, hein, un psaume parmi d'autres, on a l'habitude, on les aime, nous autres protestants, et je crois que ce serait une erreur de le laisser partir trop vite. On va essayer de le retenir un peu ce matin. D'abord parce que ce psaume 32 n'a pas échappé à la vigilance de l'apôtre Paul. Vigilance théologique, puisque ce psaume a servi de base à la construction d'un raisonnement extrêmement puissant dans l'épître aux Romains, au chapitre 4. Rien de moins que l'exposé de la justification par la grâce et non par les œuvres. Vous voyez, donc ce psaume est cité à cet endroit-là. Et puis aussi, parce que ce psaume commence par un mot qui fait vibrer l'existence humaine depuis la nuit des temps. C'est ce mot qui met nos cœurs en joie, le mot « heureux ». Ce psaume m'a parlé, et ce psaume m'a rendu heureux. Et c'est pour ça que j'ai voulu le partager simplement avec vous, en espérant partager ce moment de bonheur. La première chose, là, c'est le titre. Là, on peut lire de David, instruction. Souvent dans nos lectures des psaumes, d'ailleurs, on passe vite là-dessus. Les titres, même souvent, ils sont écrits en italique dans les éditions de nos Bibles, si bien qu'on va vite au verset 2. Hein. Eh bien non, c'est une erreur. Ils font pleinement partie du texte. Ce n'est pas les éditions, c'est le texte original qui porte ces titres au psaume. C'est donc un texte de David ou un poème. Nous connaissons le grand roi d'Israël. Mais ce qui est intéressant de relever quand même ici, c'est l'étymologie du nom David. Un nom prédestiné, comme chaque prénom, hein, chaque nom dans la culture sémite et arabe, on porte des noms qui sont des noms messages. Ça peut signifier, une des racines peut signifier amour. David, amour. David, oui, il est arrivé que ce soit le roi amour. Et puis il y a l'autre mot, maskil, qu'on a traduit souvent par poème, mais quelquefois aussi par instruction, comme ici. C'est un texte qui est donné pour ouvrir l'intelligence, pour conduire le discernement. Vous voyez que le titre, quand même, serait dommage de passer trop vite dessus. En deux mots, David, maskil. L'essentiel est dit, amour et discernement. Il ne s'agit pas d'obéir sans réfléchir avec Dieu, il s'agit d'aimer pour comprendre, et de comprendre pour aimer. Voilà d'ailleurs un magnifique programme d'église, et si cet après-midi la réunion des membres cherchait un mot d'ordre, je propose celui du psaume 32, amour et discernement. Le mot qui vient ensuite ajoute au titre quelque chose d'essentiel, heureux. Ce mot est employé rien que dans les psaumes presque 30 fois. C'est un mot clé du psautier. Il n'a pas échappé à Paul. N'est pas heureux celui qui fait le bien, ou celui qui est fidèle au principe de la religion. N'est même pas heureux celui qui a la foi, ou celui qui évangélise, qui fait le missionnaire. Heureux celui dont l'offense est enlevée et le péché couvert. Voilà le message du psaume 32. Le fondement de la foi chrétienne est posé ici. Le Christ nous annonce le pardon. Il soulève le poids de notre faute, ou bien de ce sentiment de culpabilité qui nous accable. Il prend ce poids sur lui, non pas pour se rendre malheureux, voyez ce Christ souffrant, mais pour nous soulager, nous. Nous sommes allégés. Et si ce n'est pas le cas, pour toi, mon frère, pour toi, ma sœur, ce matin, eh bien, demande ce bonheur de l'allègement du poids qui écrase ta vie. Et l'autre mot de ce verset, c'est le péché couvert. C'est une très belle expression, ça, qui nous renvoie à un autre passage de l'Ancien Testament. On est dans les tout premiers chapitres de la Genèse. Souvenez-vous, après avoir mangé le fruit défendu, Adam et Ève se couvrent avec des feuilles de figuier. Non seulement c'est ridicule, mais ça gratte. Dieu va leur montrer qu'il ne sert à rien de cacher sa faute. Elle finit toujours par ressurgir. Le péché, c'est comme ça, ça démange. Alors, Dieu va leur coudre des vêtements. Il va couvrir leur faute. Vous voyez que Dieu ne fait pas un tour de magie avec notre péché. Il ne le fait pas comme ça disparaître. Il le couvre. C'est-à-dire qu'il le met à distance. Vous voyez, le péché n'est plus une obsession de premier plan, dont il faudrait tout le temps parler, qu'il faudrait ressasser, finalement, adorer. Quelque chose de très malsain dans cette fascination de soi pour le péché en soi. Cette couverture par Dieu de notre faute en Éden et ici restaure l'image de notre dignité humaine. C'est beau. Cette image de Dieu qui demeure en nous, quel que soit le mal que nous commettions. La couverture nous permet de retrouver la pudeur. Et avec la pudeur, la relation aux autres. Et de restaurer, dans cette expérience d'altérité, de rencontre, l'image que nous avons de nous-mêmes, que nous avons perdue. Et quel bonheur de vivre cette expérience-là de réconciliation à soi-même, par les autres, avec Dieu. Alors ce péché, il est évoqué au verset 3. Il le connaît bien, le péché, David. C'est comme nous, c'est un expert. Il n'a pas toujours été le grand roi amour que son nom évoque. Aujourd'hui, les Bethsabée, abusés sexuellement par les hommes politiques, balancent leur porc. David a été l'un d'eux. Et s'il n'y avait pas Internet à l'époque, quand même, ça n'avait pas échappé au petit prophète Nathan, qui est venu lui demander des comptes. Oui, je me taisais. Mes os s'usaient dans mon rugissement tout le jour. Voilà ce verset 3. On s'imagine que péché, c'est dire du mal, c'est parler trop, c'est mal parler de Dieu ou des autres. Mais ici, péché, c'est le contraire, c'est se taire. C'est intéressant. L'erreur la plus terrible, c'est de ne pas parler. Péché, c'est s'enfermer avec sa faute et vivre avec elle dans cet espace confiné qui est notre cœur, notre intériorité, notre conscience coupable. Quand on se tait, nos os s'usent. On perd de la substance. On se consume de l'intérieur. Le péché gagne du terrain en nous, dans ce silence malsain. Et puis, ce silence coupable, il provoque une autre réaction. On sort du silence pour rugir. Pas un gémissement, hein. C'est un rugissement. Ailleurs, ce mot est employé pour le cri du lion, hein. C'est un langage sans signification, effrayant pour soi et pour les autres. Rugir, c'est prononcer des mots inhumains qui blessent et qui tuent parce qu'ils sont fabriqués par la haine et par le ressentiment. Parler, c'est au contraire chercher à mettre de l'ordre dans ses idées. C'est objectiver la souffrance qui nous tient ou la culpabilité qui nous écrase. Parler avec Dieu dans la prière ou bien avec un proche dans l'entretien va nous aider à sortir de ce silence de mort ou de ce rugissement de bête et nous déplacer pour voir les choses autrement. D'ailleurs, l'apôtre Paul il dira « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. » Le travail de parole, comme disent les psys, ils n'ont pas tort, sur ce point-là au moins, est indispensable. C'est finalement cette expérience de parole qui va amener David à cette magnifique confession. « Je t'ai avoué mon péché. » Je n'ai pas couvert ma faute. J'ai dit, je confesserai mes offenses au Seigneur. Alors, je l'ai fait remarquer dans la lecture publique qui a été faite du psaume. Certains psaumes invitent le lecteur à une pause. Vous l'avez vu ce mot, hein ? Alors, je l'ajoute là. On pense que c'est une marque musicale pour nous aider à chanter le psaume. Alors, on n'a plus les notes de musique, elles ont disparu, puisqu'il n'y avait rien pour enregistrer dans la Haute Antiquité. Mais il nous resterait ces petites marques là en marge des psaumes, une espèce de résiduel immunologique. Eh bien, je ne crois pas du tout que ces pauses soient restées pour ça. Elles sont une marque théologique majeure. La pause, c'est le mot de la bonne nouvelle du salut. Parce qu'en Christ, Dieu nous offre une pause. Il nous donne la paix. Et au moyen de toutes ces grâces que je viens d'évoquer, le pardon, la parole et le bonheur de parler avec Dieu, eh bien chacun va enfin accéder au repos, à la pause. Ce mot pause d'ailleurs vient d'un verbe intéressant qui signifie mettre en balance ou mettre en perspective ou même mépriser. Il y a la même racine. Peut-être est-ce ainsi que l'on peut avoir du repos quand on sait mettre nos problèmes à distance. Alors, juste place, disons. Parce qu'à bien y regarder, notre péché, nos épreuves, ne méritent pas d'être en concurrence avec la grandeur de Dieu, avec la grandeur de son amour et de son pardon. Et là, je vous invite à faire une pause de quelques secondes de silence. En parcourant ce psaume 32, mon œil s'est arrêté sur le verset 7, qu'on peut traduire plus littéralement comme ça. « Toi, une cache pour moi. De l'angoisse, tu me gardes. De cris de délivrance, tu m'environnes. » Pause. Voilà, Dieu est pour le croyant cette cache, cette planque contre le mal. Le mal ne nous trouve plus. Nous sommes réfugiés en Dieu. Et là, dans cette cache, bien oui, nous sommes protégés de l'angoisse. Voilà encore un mot qui doit être considéré en hébreu, comme en français d'ailleurs. C'est le lieu étroit, l'angoisse. C'est le lieu où j'ai le sentiment d'être enfermé, serré, écrasé. Le nœud au ventre que nous avons tous connu. Eh bien, Dieu libère de ce sentiment mortifère en ouvrant des horizons, en faisant entrer la lumière et le vent, en ouvrant des fenêtres et des portes dans nos vies, nous libérons de l'angoisse. Dieu crée de l'espace en nous, de la respiration. Et il nous libère de tous ces déterminismes stupides dans lesquels nous croyons toujours. Depuis tout petit, on vous dit que vous êtes nul. Depuis tout petit, on vous dit que vous êtes parfait. Cette image, ce n'est pas vous. Mais elle vous pourrit l'existence. Plus ou moins. Eh bien, Dieu est cette fenêtre qui s'ouvre dans la cellule du prisonnier. Elle ouvre une fenêtre sur le ciel bleu. Mais plus que ça, Dieu est la porte qui s'ouvre sur la libération. Sur cette vie libre, Jésus dira : « Je suis la porte. » Il faut passer par cette porte. Cette expérience de libération a un effet vraiment immédiat et magnifique. Elle remplit notre bouche de louange. Vous voyez que les rugissements de violence et de haine s'apaisent, disparaissent et sont des cris de joie, des cris de victoire qui retentissent. Et le tout, faut-il le préciser, mais là c'est parce que je ne suis pas, voilà, je suis pas un exalté, le tout... suivi d'une pause. Le repos offert, oui, dans la joie, oui, l'exaltation, oui, avec Dieu, mais dans cet esprit de repos. Voilà, mais on peut prier, on peut, je veux dire, on peut rester quelques instants dans ce temps de silence aussi, là. Et puis quelqu'un qui n'a rien dit jusque-là, dans le psaume, prend soudain la parole. Je te fais discerner, je t'élève dans ce chemin où tu vas. Je te conseille, mon œil est sur toi. Voilà la parole de Dieu qui s'invite dans nos prières. Dieu se présente comme cette puissance de discernement. Je vais t'instruire. Je t'élève. Pour David, Dieu n'est pas seulement un abri, une protection contre le mal. Il est aussi celui qui nous forme à lutter contre nous-mêmes et contre le mal en nous. Il nous élève dans les deux sens du mot élevé. Il nous élève au sens d'un dépassement de nos limites, par-dessus nos limites. Et il nous élève au sens de l'éducation, comme un parent, comme des parents qui élèvent leur enfant. Cette action pédagogique de Dieu est résumée par cette expression qui me réjouit profondément. Et il ne faut pas avoir peur de cette expression. Mon œil est sur toi. Ça ne veut pas dire je t'ai à l'œil. Non, c'est le regard bienveillant du Père qui se porte sur moi. Ce pardon qu'il donne, c'est pas de l'indifférence. Et sa liberté qu'il nous offre, ce n'est pas un abandon à nous-mêmes. Au contraire, ce Dieu bienveillant reste plein d'attention, de soutien et d'amour pour nous. C'est sur ce chemin de discernement et d'amour et d'élévation que le psaume 32 nous a conduit ce matin à marcher, que notre journée en soit donc illuminée.